Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, Monseigneur Lefèvre nous rappelait souvent l'importance de méditer sur Dieu. Nous nous disons souvent que Dieu est inaccessible, ou bien que la méditation sur Dieu est bonne pour les religieux ou les âmes mystiques. Et si nous ouvrons saint Thomas d'Aquin lorsqu'il parle de Dieu, nous trouvons les termes bien compliqués. Cependant, il est très important de méditer sur Dieu, Dieu seul, parce que Dieu est notre Père. Évidemment, un enfant connaît mal son père tant que l'enfant est petit. Cependant, il l'admire, il le regarde, il l'imite, et finalement, il sait quand même beaucoup de choses sur son père. Son père est unique. Et puis, en grandissant, alors qu'il connaît un peu mieux les hommes, la vie, il connaît mieux son père et comprend beaucoup mieux ce que son père est pour lui. Et lorsqu'il arrive à l'âge adulte, alors on peut dire qu'il jouit d'une intimité avec son père. Eh bien, cette intimité n'aurait pas été possible si l'enfant n'avait pas commencé tout petitement au début, cependant d'une façon très vraie, très authentique, à admirer son père et à entrer déjà dans son intimité et sa connaissance. La première raison pour laquelle nous devons méditer sur Dieu, sur ses attributs, ses perfections, c'est justement pour entrer dans son intimité, car on n'aime bien que ce que l'on connaît, et mieux on connaîtra Dieu, et mieux on l'aimera. Une autre raison pour laquelle nous devons mieux connaître et donc mieux méditer Dieu, c'est la louange que nous lui adressons. Jésus, dans le Notre Père, nous a demandé de dire « que votre nom soit sanctifié ». Eh bien, mieux nous connaîtrons les perfections de Dieu et plus notre louange sera parfaite. Comme un enfant qui, au début, loue son père devant ses camarades parce que son père est grand, parce qu'il est fort, parce qu'il est unique aussi. Et en grandissant, l'enfant loue son père auprès de ses camarades à cause de la sagesse de son père, de sa bonté, de sa sainteté. Les psaumes nous chantent tout au long du psautier la grandeur de Dieu. Évidemment, elle le fait d'une façon imagée. Et rappelez-vous par exemple le psaume 90 que l'on chante au compli du dimanche, que les bénédictins chantent tous les jours au compli. Dieu est une tour inébranlable, il est une protection assurée, il est un bouclier. Notre Seigneur est comme la citadelle de Sion. Il est comme un aigle qui me protège de loin sous son ombre. Le langage est imagé, mais il a l'avantage de très bien exprimer la réalité et à nous de faire le petit effort qui convient pour comprendre ce qu'est la citadelle sainte, quand on parle de Dieu, ce qu'est la tour inexpugnable, ce qu'est l'aigle qui vole si haut, qui voit si loin, qui protège rien qu'avec son ombre, dont l'ombre fait peur aux démons. Le psaume Iudicame à la messe, « Quia tu es Deus fortitudo mea » car « Seigneur, c'est vous ma force ». Et il est notre jeunesse également. Bref, pratiquement dans tous les psaumes, vous trouverez une louange extraordinaire des perfections divines. Également dans le prologue de Saint Jean, au début était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était en Dieu. Ce sont des paroles que nous entendons souvent, qui demeurent très mystérieuses, bien entendu, mais lorsque nous méditons, que nous réfléchissons un petit peu, nous pénétrons malgré tout à une grande richesse, une grande élévation du mystère. Dieu, le Fils qui est le Verbe, est en Dieu, il est auprès de Dieu, tout a été fait par lui. Il a fait de nous ses fils, Dieu a fait de nous ses fils. Nous avons été engendrés, non pas comme des hommes par la chair et le sang, mais par la sagesse de Dieu. La troisième raison de méditer sur les perfections divines, c'est en raison de ce que Dieu est pour nous. Rappelez-vous, comment avons-nous démontré l'existence de Dieu ? Nous sommes partis de perfections, des perfections relatives, mais réelles, que nous avons trouvées dans la nature. Le mouvement d'une intelligence qui cherche la vérité et qui l'obtient. Les effets qui nous ont fait remonter à la cause, la quatrième voie, qui est si belle, dans laquelle nous avons découvert, à partir d'un petit peu de bonté chez les hommes, la grande source de la bonté infinie, à partir d'un petit peu de justice, d'un petit peu de vie, d'un petit peu d'être, d'un petit peu d'intelligence chez les hommes, la source de la bonté, de la justice, de l'être, de l'intelligence, etc. Et la cinquième voie, à partir d'un tout petit peu d'ordre intelligent dans l'instinct des animaux, nous sommes remontés à l'ordre mis par le Créateur chez les hommes, et de là à la source de tout ordre, c'est-à-dire à l'intelligence infiniment sage de Dieu. Mais voilà, nous avons fait notre démonstration à partir de quelques petites réalités seulement, et il faut redescendre cette échelle qui nous a permis de monter à Dieu pour éclairer toutes les autres réalités que nous n'avons pas considérées dans notre démonstration. Nous sommes partis d'un peu de bonté chez les hommes. Il faut éclairer tout le reste de la bonté. D'un peu de vie, il faut éclairer et vivifier tout le reste de la vie. D'un peu d'intelligence, il faut redescendre de Dieu vers toute recherche de toute connaissance dans toute intelligence. Nous sommes montés depuis l'ordre du monde jusqu'à Dieu, qui est la fin, l'ordonnateur, celui qui met de l'ordre et qui est le but. Et il faut que nous redescendions pour voir comment sont orientées nos boussoles, sont-elles orientées vers Dieu? Et nos chemins sont-ils fidèles à cette orientation vers Dieu? Nous verrons que cette redescente est nécessaire pour une bonne éducation des enfants. Elle est nécessaire aux prêtres pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent donner à ses fidèles et à tous les supérieurs pour qu'ils apprennent à gouverner leurs inférieurs comme Dieu gouverne le monde et comme Dieu gouverne les supérieurs. Nous verrons ça lorsque nous parlerons du gouvernement divin. Le gouvernement des hommes doit imiter le gouvernement de Dieu. Si on se souvenait de cela, on dirait un petit peu moins de bêtises sur l'autorité, le pouvoir, la loi, le commandement, les supérieurs et la société. Et puis, c'est nécessaire pour chacun d'entre nous, personnellement. Alors, nous allons commencer par la première considération. Dieu est simple. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est simple ? Ça veut dire qu'il n'est pas complexe. Simple ici, il ne s'oppose pas à compliqué au sens de difficile, mais au sens de complexe, c'est-à-dire que Dieu est pur. Tout d'abord, il est sans corps, sans matière. Cela, je pense que vous le savez. Encore que vous le savez parce qu'on vous l'a appris, il a fallu qu'on vous apprenne que Dieu était sans corps, que Dieu était sans matière, que c'était grâce à cela que Dieu, qui est un pur esprit, voit tout et partout, y compris dans la conscience des hommes. Dieu n'a pas la perfection, il est la perfection du verbe être. C'est très important ça. Parce que avoir veut dire qu'il y a un sujet et un objet, donc une différence. Si j'ai quelque chose, c'est qu'il y a moi, la chose, et un lien entre cette chose et moi. Tandis que si je suis cette chose, à ce moment-là, il y a non plus un complément d'objet direct, il y a un attribut. Et un attribut, c'est une perfection qui est dans le sujet. Et pour la même raison, on peut dire que Dieu n'a pas de nature, il est sa nature. Il y a une nature divine, évidemment qu'il y a une nature divine, sinon il n'y aurait pas de Dieu. Il y a une nature divine. Il n'y a pas un sujet qui possède cette nature. La nature divine est Dieu et il n'y a pas de différence entre Dieu et la nature divine. Alors qu'il y a une différence entre tel homme et la nature humaine. Il y a même une différence entre un ange et sa nature, bien que la nature de chaque ange soit unique. Il y a une différence parce que l'ange a reçu sa nature. Il n'est pas sa nature, il a la nature angélique, alors que Dieu est. C'est pourquoi on devrait, en stricte rigueur de termes théologiques, on ne devrait pas dire que Dieu existe, mais que Dieu est. Dire que Dieu existe laisse à supposer qu'il y a une différence chez lui entre sa nature et son existence. Tandis que affirmer ou dire que Dieu est, c'est montrer dès le début l'unité. Et d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin ne pose pas la question « Dieu existe-t-il ?» mais il pose la question « Dieu est-il ?» Bien, vous comme moi, nous continuerons à parler de l'existence de Dieu, mais je dis cela pour que vous compreniez bien. Dieu n'est sujet d'aucune vicissitude, il ne peut recevoir aucun ajout. C'est très important ça, aujourd'hui. Parce que le monde moderne qui s'appuie sur une théologie faussement divine et complètement dévoyée, le monde moderne est persuadé que l'homme apporte quelque chose à Dieu. J'ai acheté un livre sur la connaissance du judaïsme écrit par un juif et il pose la question « Que l'homme apporte-t-il à Dieu ?» Il répond « L'homme apporte à Dieu de pouvoir exister. Sans l'homme, Dieu n'existerait pas. C'est en toutes lettres dans le livre. Et après ça, le livre affirme que grâce à l'homme, Dieu retrouve son unité perdue entre sa part masculine et sa part féminine. Alors là, on va très rapidement glisser dans le scabreux. Et c'est inévitable. À partir du moment où on met une composition en Dieu, une complexité, donc une matière, donc où on porte atteinte, où on diminue les perfections de Dieu, en disant que Dieu n'est parfait que si on apporte quelque chose, il est évident qu'on peut descendre toujours plus bas dans ce genre de choses, jusqu'aux choses scabreuses. Et enfin, la dernière question que pose saint Thomas, dans la question sur la simplicité de Dieu, le dernier article, quels sont les rapports de Dieu avec le monde ? Il dit, Dieu est-il, se mélange-t-il au monde ? Et il répond, non, bien entendu. Tout en ayant créé le monde, il ne se mélange pas au monde. Il n'est pas l'âme du monde, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui très, 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 très souvent. L'âme du monde, où il serait la conscience du monde. Ou pour les modernistes, ou les juifs d'ailleurs, parce que c'est la même chose. L'homme se forge une idée de Dieu dans sa conscience humaine, et c'est cela qui est Dieu. Parce que c'est ce qui permet à l'homme d'être homme. Dieu n'est pas le ferment du progrès, comme l'affirme Vatican II dans Gaudium et Spes. Le monde ne sort pas de Dieu par émanation, comme le disent les bouddhistes, ce n'est pas la lampe d'Aladin, voyez. Nous verrons comment le monde vient à l'existence. Il est créé à partir de rien et avec rien. Et c'est justement la grande perfection, la grande puissance, la grande richesse de Dieu, de pouvoir créer le monde sans que cela ne change rien en lui, sans que cela ne lui apporte rien, sans que cela ne lui ôte rien, sans que cela ne change quoi que ce soit en lui. Alors on posera la question, pourquoi Dieu a-t-il créé ? Eh bien, pour communiquer au monde ses perfections, mettre un mouvement dans le monde pour le trouver, pour trouver sa perfection. Je vous en parlerai plus tard. Bien, troisième partie de ce sermon, les conséquences. Nous devons ressembler à Dieu, et pour cela, c'est en premier entrer dans sa pureté et sa simplicité. Je vous l'ai dit au début du sermon, Dieu éclaire tout. Si Dieu éclaire tout, c'est que tout doit être dans la lumière divine. Autre manière de dire que nous devons ressembler à Dieu, que nous devons aller à Dieu. Et pour ressembler à Dieu, il faut entrer dans la pureté de Dieu. Alors, trois considérations. Tout d'abord en éducation, ensuite dans l'apostolat sacerdotal, puis troisièmement pour chaque adulte, chaque fidèle. En éducation, tout d'abord, ne dites jamais à un enfant, en montrant le crucifix, ou même en montrant la Sainte Hostie, « Regarde, c'est le bon Dieu ». On ne peut pas voir Dieu. On va lui mettre dans la tête qu'on peut regarder Dieu et voir Dieu. Non. La Sainte Hostie, c'est le corps de Jésus, et Jésus possède deux natures, une humaine et une divine. Jésus est le bon Dieu, mais il faut faire très attention. C'est tellement plus facile de dire à un enfant devant la crèche « Regarde le bon Jésus, c'est le bon Dieu ». Comme ça, on n'a plus besoin de parler du mystère de Dieu qui, il faut le reconnaître, n'est pas facile à traiter. Il faut rappeler à un enfant que Dieu est un être invisible, présent partout, qui lui donne la vie. Il est difficile d'aller plus loin avec un enfant, avec un jeune enfant. Mais c'est déjà considérable ça, et au moins c'est vrai. C'est-à-dire que quand il avancera dans la connaissance de Dieu, il n'aura pas à rejeter des choses fausses qu'on lui aurait dites. En éducation, il est très important de ne pas éparpiller l'enfant, de ne pas l'écarteler entre le monde et Dieu. Alors là, je ne parle pas seulement des enfants avant l'âge de raison, ni même de ceux qui viennent de faire leur première communion, c'est vrai jusqu'à la fin de l'éducation. On doit faire très attention à ne pas écarteler l'enfant entre le monde et Dieu, entre le corps et Dieu, entre ce qui passe et Dieu qui est éternel. On doit au contraire tout ramener à Dieu. Cette chose passe, mon fils, ma fille, mais les choses ne passeraient pas s'il n'y avait pas Dieu qui, lui, est éternel. Et c'est très facile à faire si on prépare bien à la première communion. Dans la première communion, un enfant se donne tout entier à Dieu. Alors ce n'est pas le moment d'aller l'éparpiller en faisant en sorte qu'il appartienne en partie à Dieu et puis en partie à lui-même, en partie à ses amusements, en partie à ses amis, en partie à ses jouets, que sais-je encore, pour ne pas dire à ses écrans. La considération de la simplicité de Dieu est également très importante pour nous, prêtres, dans notre apostolat sacerdotal. Car notre apostolat doit vous ramener à l'essentiel, c'est-à-dire à Dieu. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, sous prétexte d'efficacité, sous prétexte de nous mettre à la portée du monde, on craint de ramener le monde à Dieu. Quand on ne l'englue pas dans ce qui n'est pas Dieu, dans sa mondanité. C'est vrai, chez beaucoup de prêtres modernes, encore qu'il y a des prêtres modernes qui cherchent, hein, qui cherchent vraiment à unir à Dieu, qui le font difficilement parce qu'ils ont une mauvaise théologie, mais qui cherchent à le faire. C'est vrai même chez les prêtres traditionnalistes, parce que les prêtres restent des hommes de leur époque. Non, nous devons nous prêcher Dieu, vous prêcher l'essentiel. Les missionnaires chez les papous ont prêché Dieu, Dieu et Dieu, ils ne se sont occupés de rien d'autre. Nous avons le devoir de vous faire découvrir la noix sous la coque, l'esprit de Dieu sous les choses humaines. Et puisque Dieu est la Sainte Trinité, nous avons le devoir de vous faire vivre dans la sainte communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont étrangers à ce monde qui passe. Étrangers. Ils l'ont fait, oui, mais comme un escabeau pour les pieds de Jésus-Christ. C'est le psaume des Vêpres du dimanche. Il a mis un escabeau sous ses pieds. Et troisième considération quant à votre vie chrétienne. La séparation du monde, le mépris du monde, ont leur raison d'être en Dieu, dans la simplicité de Dieu. Et c'est cela qui les rend nécessaires. La séparation du monde et le mépris du monde sont nécessaires à cause du péché, bien entendu, parce que le monde attire. Mais Adam et Ève, s'ils n'avaient pas péché, auraient usé du monde, bien entendu. Mais justement, comme d'un escabeau, ils ne se seraient pas attachés au monde. Ils n'auraient pas donné au monde une valeur qu'il n'a pas. Ils se seraient comportés comme des moines dans le meilleur des couvents, comme des chartreux dans la meilleure des chartreuses, tout en ayant des enfants. « Nul ne peut aimer deux maîtres à la fois, dit notre Seigneur. » Alors, a fortiori, la séparation de l'audiovisuel, de la curiosité sur Internet. Je sais bien qu'on peut utiliser Internet pour certaines recherches intéressantes, et notamment des convertis nous disent que s'il n'y avait pas eu Internet, ils auraient eu du mal à connaître Mgr Williamson, Mgr Lefebvre et les sites de la fidélité catholique. Mais faites attention, sur les courriels que je reçois, j'en mets plus de la moitié à la poubelle sans les ouvrir. Je mets quasi systématiquement à la poubelle tout courriel qui contient un lien vers une vidéo. La simplicité de Dieu, c'est ce qui fait qu'on ne partage pas son imagination, moitié entre Dieu, moitié entre les romans romantiques. Roman romantique, évidemment, c'est un pléonasme. Mais justement, ça vous montre bien ce qu'est un roman, c'est du romantisme. Les musiques sensuelles, les danses et tout ça. Et je termine avec la pauvreté. La pauvreté évangélique trouve sa légitimité et sa nécessité dans la simplicité de Dieu. Elle n'est pas nécessaire de la même manière, ou elle ne se pratique pas plutôt. Elle ne se pratique pas de la même manière entre les laïcs dans le monde et les religieux, mais elle est nécessaire aux uns comme aux autres. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Voilà. Vous voyez bien que cela vaut la peine de contempler les perfections de Dieu. Et nous n'en avons vu qu'une, la simplicité. 8 petits articles d'une seule question de saint Thomas d'Aquin. Et nous y avons trouvé tant de richesses. Alors chantons, aujourd'hui dimanche, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caelia et terra, gloria tua. Le ciel et la terre sont pleins de votre gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.